La question de Yoel. Yoel pose la question, quelqu'un qui ne peut donner qu'une demi-heure de Torah par jour, vraiment pas plus. Alors, vers quoi orienter sa Torah? Alors, il faut comprendre que la Torah, en fait, c'est une nourriture spirituelle. Et comme de son physique, si quelqu'un se nourrit que de glucides, ou que de protéines, ou que de lipides, eh ben, il sera malade. On doit se nourrir d'un peu tout, un peu de la verdure, un peu de viande, un peu de poisson, etc., etc., du liquide, du solide. De même au niveau de notre être spirituel. Nous devons nous nourrir des différentes parties de la Torah. Il est nécessaire d'avoir du chumash, l'étude de Torah. Il est nécessaire d'avoir aussi l'étude du nach. Nach, c'est la Bible, les Nevim et Ktuvim, les prophètes, ce qu'on appelle les hagiographes. Il est nécessaire d'étudier la loi orale, Mishnah et Gemara. Il est nécessaire de faire de la pensée juive, ou plus tard, rentrer dans les secrets de la Torah, c'est les pensées juives. Il est nécessaire d'étudier la halakha pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Rabbeinu Ari, Rabbi Yitzhak Lurie Ashkenazi, déjà il y a 500 ans, a mis au point une étude qui regroupe tous ces types de nourriture céleste, on appelle ça le Chok l'Israël. Alors il est bien d'étudier que quelqu'un qui a une demi-heure, c'est bien, il peut faire le Chok l'Israël, ça prend une bonne demi-heure, s'il le fait bien avec la Mishnah, il y a dedans un peu de Gemara, facile, il y a un peu de Moussar, la Halakha, ça vaut la peine de prendre, là-bas il met le Rambam Maïmonide n'est pas la Halakha aujourd'hui, c'est bien qu'il prenne un Kitsur Shulchan Aruch, un raccourci de Shulchan Aruch, il y en a de plusieurs types, en hébreu, en français, comme ça il aura une vue d'ensemble. Et Shabbat, alors il faut qu'il se défonce. C'est vrai que le Shabbat était donné spécialement, principalement pour l'étude de Torah. Et l'étude de Torah le Shabbat, comme ça disent les kabbalistes, vaut 1000 fois plus qu'un jour profane. C'est pour ça que le Shabbat devient très fort. Et le Shabbat, on mange bien, on boit bien. Et après le repas, qu'est-ce qui se passe? Les vapeurs montent. L'esprit, et tout à coup, les yeux pèsent 3 tonnes. On va dormir, et quand on est dans le lit, pas on pèse 3 tonnes, on pèse 3000 tonnes, d'accord? Le Shabbat passe en ronflant, en mangeant, en buvant, en, je dirais même, dormant à la synagogue, d'accord? De Torah, Zichrona, Livracha, pendant le Shabbat. Or, etc. Il faut se battre pour arriver à débloquer quelques bonnes heures d'études de Torah, car c'est l'essentiel du Shabbat. Bonne journée. Shalom. La dernière fois, on a parlé un peu des nourritures célestes qu'il fallait un peu partager son étude à tous les niveaux. Celui qui peut donner qu'une demi-heure par jour, mieux vaut qu'il étudie le Chok l'Israël. Shabbat, se défoncer, étudier beaucoup. Maintenant, il y a un jour, qui est un jour très important dans la semaine, qui passe aussi un peu inaperçu, et des fois, on peut arriver à débloquer du temps, c'est le vendredi. Pourquoi le vendredi est-il tellement important? Il faut savoir que les 7 jours de la semaine sont divisés d'après les 7 sphères. C'est pas marqué que Dieu a créé Be'sheshet Yamim, en 6 jours. On traduit en 6 jours, mais c'est marqué Sheshet Yamim. Littéralement, 6 jours, Dieu a créé le monde. Ça veut dire que Dieu a créé le monde dans une trame. Dieu dirige le monde par une trame qui sont les 7 sphères inférieures. En fait, c'est 6 plus 1. C'est-à-dire, le monde est régi. Le monde est régi par ces 6 sphères. C'est quoi des sphères? C'est des voies de conduite de Dieu. Et chacun des jours correspond à une voie de conduite. Le dimanche correspond au Chesed, le lundi correspond à la Gvura, le Din, le mardi correspond à Tif-Eret, le mercredi correspond à Netzar, le jeudi à Hod et le vendredi à Yesod. Shabbat, c'est la Malka. Boy Malka, on dit quand Boy Kala vient la reine, c'était la mariée, mais la Malka, on ramène la mariée, moi c'est Shabbat, c'est la Malchoute, c'est le dévoilement de Dieu, Shabbat, c'est la royauté de Dieu qui apparaît. Le vendredi, Yesod. Yesod, c'est quoi? La base. Ça veut dire que c'est la base de tous les jours. En fonction de ton vendredi, comme ça sera ton Shabbat. Plus ton vendredi est saint, plus le Shabbat, il est d'ampleur extraordinaire. C'est pour ça que le vendredi, dans le monde des Yeshivot, c'est un jour mort. Il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que le vendredi, dans toutes les familles, d'habitude, l'après-midi, il y a des bagarres. D'accord? Parce que Yetzer Hara, il veut casser ce jour-là. C'est un jour, si possible, Rav Ben Sion Abba Shaoul, le vendredi, il quittait la maison tôt le matin, revenait que quelques minutes avant le Shabbat, il terminait un traité entier du Talmud le vendredi. C'est un jour énorme. Parce que c'est la base. Quand la base elle est solide, tu peux faire un bâtiment énorme dessus. Mais quand tu feras le bâtiment aussi grand que tu veux avec une base qui est fragile, qu'est-ce qui se passe au bâtiment? Il fait le 9 septembre, d'accord? Les Twin Towers, et ton vendredi, et ton Shabbat, les deux grandes tours qui s'écrasent. Donc, bien construire son vendredi, de plus, Yesod, ça correspond à l'organe sexuel masculin. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes dans le sixième millénaire, et que justement, le grand tikkun, la grande réparation, le grand travail, le grand job que nous avons à faire, c'est réparer au niveau du 6, d'accord? C'est pour ça que le Yetzer Hara sexuel se déchaîne. Donc, pour réparer cela, le sixième jour, bien se sanctifier pour qu'on ait un Shabbat, Shabbat c'est déjà l'époque messianique, plein de lumière. Bonne journée. Quelqu'un, pendant une vingtaine d'années, a pédalé dans le lead, a baigné dans le flop, s'est ratatiné dans la confiture, a compris tout à coup qu'il y avait une réalité de Dieu qui est bonne. Et s'est investi là-dedans et a senti vraiment la divinité. Parce que quand on fait tchouva, on est aidé énormément par Dieu. On se sent vraiment sur un petit nuage. Et c'est très beau, très grand, très fort. On a une envie terrible d'en faire participer nos proches. On revient, une fois d'un séminaire ou de l'échiva, lumineux. Les gens te voient, et les gens sont restés dans leur grisaille, d'accord, quotidienne normale, ils te voient comme ça, on t'a pété un câble. Ça y est, t'es tombé dans le panneau. Ils t'ont illuminé. Bourrage de crâne. Toi, je te croyais normal. Alors, il faut expliquer un peu comment nous devons agir et expliquer la réaction des gens. La réaction des gens, elle est normale, somme toute. Ils voient un type qui est normal comme eux, ça veut dire, dans le monde non religieux, et évolue sur des thèmes pas toujours très vrais. Le pouvoir, l'argent, les filles, d'accord, les plaisirs momentanés. Et voilà, on ne se pose pas trop de questions. Ou quelqu'un, hop, s'y bifurque. Alors, si c'est un toqué qui a bifurqué, bon, ben c'est normal, il est toqué, donc c'est normal qu'il devienne religieux. Mais c'est un type bien, c'était mon ami, c'est mon fils, c'est mon frère, c'est quelqu'un que j'apprécie. Alors là, si la personne qui est restée non religieuse est extrêmement haute de niveau spirituel, c'est-à-dire quelqu'un de très ouvert, de très grand, vraiment quelqu'un de qualité, il pourra tout à fait accepter que je suis tolérant, tu fais ta vie, t'es heureux comme ça, je suis heureux pour toi. Il n'y a aucune raison parce que tu as changé de vie qu'on refroidisse nos relations. Et au contraire, notre amitié ou notre lien familial sera au-dessus de ces considérations bassement religieuses. Alors, on peut s'aimer bien qu'on est différent. Voilà. Tu ne manges pas dans un McDonald's. Bon, bah alors allons manger dans un street cachère. Ça va, ça. Aujourd'hui, ça passe. Il y a 30 ans, ça passait pas. Il y avait que des restaurants affreux. Aujourd'hui, tu as combien? Tu as 3000, 300, je sais pas combien. Tu as des centaines de restaurants de toutes sortes, orientales, occidentales, tout ce que tu veux. Tu peux manger cachère comme il se doit, il n'y a aucun problème. Mais la majorité des gens ne sont pas comme ça. et ils auront une réaction extrêmement virulente. Pourquoi? C'est très simple. Chaque juif a en lui une neshama, c'est-à-dire une pulsion divine qui lui dit « Arrête de te fourvoyer, arrête de perdre ton temps, il y a un sens à l'existence, il y a un Dieu, tu es un juif, tu le sais, tu fais partie d'une histoire qui a un sens, reviens vers tes sources. » Attends, lui, c'est en kikine, parce qu'on revient vers les sources, ça implique tout ce qui est bon est interdit. Pas de filles, Shabbat, il faut la synagogue, kasher, ben, il faut qu'elle strictement kasher, pour les filles, un tsniout, d'accord, un tas de machins, très très en kikine, pour quelqu'un qui n'a pas goûté à la douceur de la Torah. Mais au niveau du corps, c'est très contraignant. Donc lui, bien qu'il a un appel du côté de sa neshama qui lui dit, rejoins ta Torah, rejoins ton peuple, rejoins tes racines, cherche la vérité. Il y a une partie qui est son corps qui lui dit, mais jamais de la vie, c'est trop dur, moi je veux vivre ma vie tranquille. Alors qu'est-ce qu'il fait de cet appel-là, de la neshama? Il est obligé de le refouler. Il le refoule, il enfonce très très. Des fois, par exemple, on a une femme qui est mariée avec un non-juif. On a beaucoup de cas ici à la yeshiva. Eh bien, le père non-juif, il voit son fils qui devient religieux. Bon, ça ne dérange pas. Mais la mère, c'est insupportable pour elle. Parce qu'elle sait très bien que, quelque part, d'être marié avec un non-juif, c'est tout à fait prohibé par la Torah. Donc, elle culpabilise à mort. Mais elle ne peut pas accepter cela. Donc, elle refoule, disant qu'elle est normale, et son fils, lui, est anormal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? De deux choses l'une. Ou bien, c'est moi qui est normal, et mon fils qui devient religieux, ben, c'est un taré. C'est un intolérant, c'est un type, c'est un roméniste, taliban, gnome, fanatique, fondamentaliste, qu'est-ce qu'il y a encore, extrémiste, tout ce que vous voyez, toute une panoplie de termes. Parce que si lui a raison, parce que si jamais, à Dieu ne plaise, lui a raison de faire tchouva, donc c'est moi le crétin. Mais un crétin fini. Or, la personne étant tellement attachée à sa façon de vivre, par exemple, le cas d'une femme qui va avec un non-juif, elle va pas le quitter à cause de ça. C'est trop dur, la remise en question. Quelqu'un qui est attaché à sa vie, du momentané, des plaisirs de ce monde-là, c'est très dur de se remettre en question. Donc, vu que le débat, il est très clair, ou c'est lui qui a fait, tu vois, le crétin fini, et moi je suis normal, donc je continue ma vie dans mes plaisirs comme je veux, et j'ai raison de le faire, et pour légitimer, je suis obligé de refouler ma culpabilisation intérieure, je suis obligé de le refouler aussi à l'extérieur. Quand lui, il ne dit rien, mais lui en tant que religieux, étant un type normal à l'époque, il me dit, t'es un espèce de crétin. Quand je vois quelqu'un de religieux, des parents, qui sont tout juste traditionnalistes, leur enfant qui était un enfant réussi, bien, tout ça, il devient religieux. Ben, les parents vont dire, si t'as raison, ben, c'est moi le crétin. Or, je pense que moi, j'ai raison. Donc forcément, c'est toi le crétin. Et c'est nécessaire. À moins d'être, comme j'ai dit, d'une qualité spirituelle très haute, où on peut accepter de voir quelqu'un d'autre, de proche, qu'on apprécie, prendre une autre voie et pas être, à cause de cela, remis en question, ou aller notre questionnement à l'intérieur et garder des relations normales. Mais d'habitude, les gens auront des relations extrêmement vives. Quelqu'un va aller, je ne sais pas moi... un an dans un ashram en Inde. Pas de problème, c'est bien, les voyages forment la jeunesse, il faut un peu connaître le monde, pourquoi pas. Aller un an à Yeshiva, oulala, ça devient dangereux ça. Ouah, beaucoup sont allés là-bas, ils sont devenus religieux. Non, tu comprends ce que ça veut dire. Tous les bons plaisirs de la vie, c'est fini. Tu deviendras intolérant. Le gosse revient, il est très tolérant d'habitude, c'est les parents qui sont intolérants. On va en parler tout de suite, intolérant et tolérant. Mais pourquoi la réaction est tellement vive? Parce que, bien que le gosse n'ait rien dit, par le simple exemple qu'il montre, qui revient aux sources de vérité, la personne se sent menacée, se sent remise en question. Et cette remise en question, elle est tellement difficile à vivre, qu'elle est obligée d'effacer, d'enlever, de critiquer. Vivement, très difficilement, de tous les noms. C'est hélas très souvent le lot de tous ceux qui font tchouva, d'avoir à dealer avec leur entourage. Alors comment on doit dealer? Alors certainement pas venir en djihad. On change jamais, on change. Télévision Shabbat, Hass et Shalom, d'accord, cachérisation totale, on hurle dans le frigo parce qu'on a vu un truc qui n'est pas cachère totalement d'après le Beit Din avec les carottes en tampon. Non, non, certainement pas. Les parents, l'entourage, vit sa vie comme il veut. Première chose à lui dire, écoute, il faut lui dire, c'est ma vie, je respecte ta vie à toi comme tu veux. Tu fais. C'est pas parce que moi j'ai changé que tu dois changer, tu fais ta vie comme tu veux. Déjà le type, ça le calme. Ils sont déjà moins menacés. Ou des fois plus menacés. Oh là là, non seulement il est devenu religieux, mais en plus tolérant. Donc il est vraiment dangereux, d'accord. Maintenant, on doit jouer notre rôle normal. Nous devons rester tolérants. En deux mots, moi je n'ai pas le droit d'aller changer la vie des autres. Même si je pense que c'est intelligent bien, je ne dois surtout pas aller maintenant, ni en djihad, ni en croisade de persuasion enrobée de chocolat sympathique. Non, non. Au contraire, plus tu vas tenter, plus eux ils vont être sur le... Si tu veux déjà les convaincre, dis rien. Puis au bout d'un moment, ils vont dire, raconte-moi. Quand eux te racontent, ok, c'est bien, alors tu peux raconter et marquer des points. Quand ils sont eux demandeurs. Donc, d'abord, pas amener de l'eau à leur moulin, quand eux vont nous traiter d'intolérants. Au niveau de tolérant, intolérant, l'argumentation, elle est très simple. C'est quoi tolérant? Donc je peux accepter qu'un autre vive différemment que moi. Donc nous devons faire preuve de tolérance. Et on fait preuve de tolérance. C'est-à-dire que je ne vais pas, parce que moi je fais tchouva, commencer à obliger, contraindre mon entourage à être religieux comme moi. Absolument pas. Eux, ils font leur vie, moi je fais ma vie. Point barre. Mais vu que je suis tolérant, je peux exiger de leur part d'être tolérant aussi. Or très souvent, l'entourage va dire, t'es devenu intolérant. Non, je suis tolérant. Preuve, je ne vous ai jamais dit maintenant de faire Shabbat. Je ne vous dis pas maintenant d'éteindre la télévision Shabbat. Je ne vous ai pas demandé maintenant de manger cachère. Faites ce que vous voulez. Mais soyez tolérant avec moi. Alors par exemple, dans les choses qui sont communes, manger. Je peux, dans une tolérance terrible, dire, écoutez, moi je mange que strictement cachère. Alors c'est pas compliqué. J'amène ma viande, j'amène ma casserole et je mange dans mon plat. T'es devenu intolérant. Non, je ne suis pas intolérant. Je vous dis, mangez comme vous voulez. Du jambon avec fumée, ce que vous voulez. Il n'y a aucun crustacé, allez-y, éclatez-vous. Sur la même table, il n'y a pas de problème. Il faut même une petite séparation quand même, d'accord. Il faut expliquer que la cachère, ce n'est pas parce que moi je mange plus cachère que vous mangez non cachère. Comme j'expliquais très souvent dans les cours sur la cacheroute, aucun élément qui contient un tampon cachère est forcément cachère. Le tampon cachère témoigne qu'il y a une surveillance qui nous fait supposer que l'aliment est caché. C'est une supposition. C'est-à-dire que le risque est beaucoup plus petit que dans un aliment qui n'a pas eu une surveillance. Maintenant, quelle différence entre différents organismes de cacheroute? Plus un organisme est sérieux, plus orthodoxe, plus la surveillance sera lourde, plus sera catégorique. Moins l'organisme est sérieux, moins la surveillance sera lourde. Et l'important qu'il y ait des organismes de ce type et de ce type, parce que chaque fois qu'on a une surveillance qui est lourde, le prix aussi, il est beaucoup plus cher. Il faut beaucoup plus de chômerie, de gardes, de gardiens, de surveillance, etc. Ça coûte beaucoup d'argent, sans parler de la petite ristourne qui se font aussi, c'est normal. Donc, on peut expliquer aux parents que vous mangez maintenant cachère totalement. Ça peut, moi, il y a un certain risque, on va dire, une chance sur 1000 soit non cachère. Ok, moi, je vais prendre le risque. Moi, je préfère prendre une chance sur 10 000. C'est légitime. Mangez ce que vous voulez, je mange ce que je veux. D'abord, il faut expliquer. C'est pas parce que je mange comme ci que tu manges pas cachère, maman, c'est tout à fait cachère. Simplement, il y a un risque, je ne vais pas le prendre. Première chose. Deuxièmement, il faut tout simplement faire des concessions. Certainement, chez les parents, en tout cas chez les parents, les enfants doivent faire certaines concessions. Les parents doivent faire aussi certaines concessions. Et il faut se rejoindre à un middle, dans une voie médiane, d'accord, où... C'est supportable pour quelqu'un qui est déjà religieux bien de manger, bien que ce n'est pas le meilleur possible, et supportable pour la personne qui est moins religieuse d'accepter de faire quelques efforts dans le sens. Si on se la guerre, on se la guerre. Mais c'est dommage, d'accord? En mettant un peu d'eau dans son vin, des deux côtés, on peut arriver à vivre très heureux et profiter de la tchouva d'un des membres de la famille.
Et si par exemple il y a une personne qui fait tchouva, mais dans sa famille, ils ne sont pas du tout portés sur la tchouva, par exemple pour la préparation du Shabbat? C'est important si les parents ils veulent pas respecter, par exemple, on ne doit pas utiliser de plata ou des trucs comme ça pendant Shabbat ou des trucs comme ça, que les parents n'ont pas envie de respecter.
Oui, alors encore une fois, moi je ne vous impose pas la plata, je n'ai pas le droit d'imposer la plate chauffante à mes parents, d'accord, ou à qui que ce soit. Alors moi je prends ma plate chauffante dans ma chambre, c'est pas compliqué. Ah, on fait... Ouais, tu fais ta petite daf à toi, où est le problème?
Par rapport
Tu feras trois fois comme ça, t'amèneras, ok, c'est bon, allez, on mettra ta place, c'est terminé. Il faut leur dire sans cesse, je vous demande rien, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi faire ce que je veux aussi, c'est tout. On vit ensemble, très sympa, et on mange ensemble. Moi, je mange mon plat de... Et eux mangent leur steak, leur broche, Shabbat, ça m'est... Il n'y a aucun problème. Il faut arriver à passer au-dessus de ces... C'est vraiment idiot de rentrer en bagarre à cause de ça. Alors, est-ce que je peux à cause de... Je vais commencer à faire moins Torah? Non.
Est-ce que c'est pas contre comme un manque de respect aux parents de faire un enfant comme ça pendant...
D'après la Torah, du point de vue strict, c'est marqué « Kabed est dans les 10 commandements ». Le 5e commandement, c'est honorer son père et sa mère. C'est marqué « Kabed et avira bitemera ani Hashem ». Honore ton père et ta mère, je suis Dieu. Pourquoi c'est marqué je suis Dieu? Si jamais les parents te disent, fais quelque chose qui est contraire à la Torah, hein, tu leur diras, écoute papa, il y a Dieu et il y a toi. Qui je dois écouter? Si il y a le rave, c'est Dieu, et l'élève, c'est le père. Qui on doit écouter? Le rave ou l'élève? Le rave. Donc si les parents demandent aux enfants de transgresser même un interdit le plus petit qui soit dans la Torah, la réponse est respectueusement, papa, j'aurais beaucoup voulu, mais je ne peux pas. Il se met en colère, qu'il va être en colère. Nous, on ne bougera pas d'un iota. Alors, il faut le dire respectueusement, dire j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas. Lui montrer le verset, regarde, papa, voilà. Là, il dit comment, honoré, voilà, honoré, je suis l'éternel. Voilà, commentaire de Rachid sur place, tu regardes.
Mais si les parents persistent?
Persistent à quoi? Si les parents persistent à quoi?
Parce qu'ils n'acceptent pas ce que leur enfant.
Alors, il faut leur dire qu'ils ne sont pas tolérants. Et qu'on on demande la...
On a le droit de... Enfin, on va pas se faire avec les parents, mais on a le droit d'interrompre le repas et partir.
Encore une fois, on doit arriver à obtenir que nos parents nous respectent dans nos choix sans faire la guerre, sans faire la bagarre. C'est dommage, mais c'est vrai que c'est très difficile. Très difficile. Alors, de toute façon, si les parents s'énervent et toi tu restes calme, tu gagnes. Toujours celui qui s'énerve, c'est l'idiot dans l'histoire, d'accord? Il s'énerve, qui s'énerve, d'accord? Comme on dit, un chien qui aboie, c'est un chien qui a peur. Quand un chien n'aboie pas, puis il est comme ça, il te regarde, il est dangereux. Mais s'il aboie, ça veut dire qu'il a peur. Le fait de crier, c'est une preuve de faiblesse. On s'énerve parce qu'on n'est pas calme. Toi, tu restes très calme. Papa, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Après tout, je vais faire que Shabbat. Je te permets, fais ce que tu veux. Mais j'ai le droit de faire Shabbat. Je ne dis pas de changer, tu fais ce que tu veux, mais je t'aime tout autant. Viens, soyons au-dessus de cela. Vivons en paix, vivons en amour. Moi dans mon Shabbat et toi dans ton non-Shabbat. Je ne t'ai pas demandé de changer. Nous, on gardons nos relations bien. Donne un message de paix, tu y gagnes. En tout cas, t'as le beau jeu. Il faut être intelligent. La direction générale, c'est être tolérant avec les autres. Et c'est vrai que c'est dur, parce que quand on revient de la yeshiva, on est très entier. On est amoureux de la vérité, et on est aussi d'un côté très fragile. Un bachoua est fragile. Donc il a une tendance à être, à réagir de façon très rapide. Il démarre au quart de tour lorsqu'il y a une situation qui n'est pas tout à fait adéquate à la Torah. Avec le temps, on prend de la bouteille, et on peut côtoyer ce qui est contraire à la Torah. C'est quelque part, quand on fait tchouva, vu qu'on est fragile, c'est très menaçant, ce côté. Avec le temps, qu'on reçoit plus d'assurance, alors on peut côtoyer le côté qui avait l'air menaçant sans être touché. Et c'est vrai que la réaction de nerfs, la réaction totalitaire, d'accord, rapide, est toujours un signe de faiblesse. C'est inhérent à la tchouva, parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un après 1, 2, 6 mois de tchouva d'être déjà stable et tout à fait, pouvoir côtoyer l'ancien côté sans un petit frisson. C'est très difficile. Mais il faut tendre vers.
Est-ce qu'on a le droit, pour l'étude de la Torah, avoir une certaine forme de manque de respect vis-à-vis des parents? Par exemple, laisser ses parents seuls, ou son père ou sa mère vraiment seul, en prétextant qu'on va étudier avec.
Absolument. Absolument. Il est obligatoire d'étudier la Torah. Et si...
Ça fait de la peine à mon parent.
Ouais, ouais, même. Alors évidemment, tu ne pars pas pour 3 ans, d'accord? Tu pars, tu reviens de temps en temps pour Shabbat, tu appelles au téléphone souvent, etc. Mais tes parents ne peuvent pas t'empêcher. La Torah, c'est l'oxygène. C'est la base de tout. Et surtout à l'âge à votre âge, l'adolescence, la jeunesse, c'est les plus belles années de la vie. C'est marqué dans les Tehillim, dans les Tehillim, comme les flèches dans les mains de l'archer, comme ça sont les jours de la jeunesse. Quelqu'un fait un peu de tir à l'arc ici? Tu as fait le tir de l'arc. Alors tu tiens comme ça, puis tu trembles, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on met? Des stabilisateurs sur l'arc pour pas que ça. Maintenant, tu vas viser et tu dévides d'un millimètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup un millimètre? C'est rien un millimètre, mais dans la cible, c'est hors de la cible. Ça, c'est la jeunesse. Un millimètre à gauche ou à droite, un mois en plus à Yeshiva ou pas, une semaine, un cours des fois en plus, au moins que tu as raté, un truc qui aurait pu te changer, ça peut être. Dans la cible, ça peut être des. On parle d'infini. L'impact, nous disons qu'il y a une vie après, qui est dans l'infini. Notre âme, elle est infinie. Donc chaque petite déviation, elle a un impact infini. C'est énorme. Il est clair qu'après un an de Yeshiva, tu ne te maries pas avec la même femme que tu serais avant un an de Yeshiva. Donc c'est une femme différente. Donc c'est des enfants différents. Et les enfants, ça va très vite. J'ai fait une fois le calcul. La moyenne de natalité ici en Israël, dans les familles orthodoxes, c'est 7,2 enfants. On va dire 7 en gros, d'accord? Alors tu fais 7 enfants, en 20 ans en moyenne, tu fais 7 enfants. Bon, après tes 7 enfants se marient, et eux en 20 ans vont faire aussi en moyenne 7 enfants. Donc ça nous fait combien? 49, on a redit à 50. 50 enfants après 40 ans. Après 60 ans, ça fait x7, combien ça te fait? 350. Ça fait 60 ans. Après 80 ans, x7, 350 x7, combien ça fait?
2600.
2600 à peu près. Je crois que c'est un peu moins. 7. 2450. 2500, on va dire. 2500, c'est après 80 ans. Après un siècle, x7, 2500 fois 2500 x7, combien ça nous fait? 18 000 environ. Ça fait après un siècle, 18 000. Après 120 ans, x7, 18 000 x7, un peu moins, environ 110 000. D'accord? Après 140 ans, 800 000. 800 000. Un an de yeshiva, ça peut être 800 000 petits-enfants avec des péotes qui étudient la Torah. Et c'est sur 140 ans, parce qu'après, tu arrives à des millions. Hein, sur 160 ans, ça te fait combien? 7 fois 8. Hein, 5 600 000. 5 600 000, l'État d'Israël. Alors combien, on a combien ici de bons juifs? Alors ça, c'est extraordinaire. Et ça, je parle de Olam Hazeh, Olam Haba, c'est infini. Donc l'impact, il est énorme. Donc les parents ne peuvent pas te priver de cela. Alors respectueusement, comme si tu serais parti maintenant pour les études. Tu as maintenant une place mirobolante dans une école, Oxford, d'accord, un truc machin. Eh bien, ta mère dit, vas-y mon fils. N'est-ce pas? Ben voilà. Alors l'Yeshiva, pourquoi serait-elle moindre que Oxford? Baruch Adonai, l'homme de ma mère.